Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
George Sand, poète rustique, demeure George Sand socialiste.
André Mauroy, écrivain.
La mare au diable n'est pas seulement une histoire d'amour contée avec une adroite naïveté. Ce récit nous montre aussi combien la bonté est naturelle au cœur de l'homme. Le laboureur Germain et la petite Marie sont des êtres simples et purs.
Ça peut pas faire de mal.
Il suffit qu'ils ne soient pas déformés par la civilisation et la richesse pour qu'ils aient toutes les vertus. Les romans champêtres de Sand ont donc le même objet que ces romans sociaux. Ils sont destinés à faire aimer le peuple par un public qui ne le connaît guère.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. J'avais partout des amis et des compagnons. Je savais dans quel champ, dans quel pré, dans quel chemin je trouverais Fanchon, Pierrot, Liline, Rosette ou Sylvain. Nous faisions le ravage dans les fossés, sur les arbres, dans les ruisseaux. Nous gardions les troupeaux, c'est-à-dire que nous ne les gardions pas du tout, et que pendant que les chèvres et les moutons faisaient bonne chair dans les jeunes blés, nous formions des danses échevelées. Ou bien nous goûtions sur l'herbe nos galettes, notre fromage et notre pain bis. On ne se gênait pas pour traire les chèvres et les brebis, voire les vaches et les juments quand elles n'étaient pas trop récalcitrantes. On faisait cuire les oiseaux ou des pommes de terre sous la cendre. Les poires et les pommes sauvages, les prunelles, les mûres de buissons, les racines, tout nous était régal. Et c'était là qu'il ne fallait pas être surpris, car il m'était enjoint de ne pas manger hors les repas. Chaque saison amenait ses plaisirs. Dans le temps des foins, quelle joie que de se rouler dans les miloches, ces petites meules dressées dans les prés. Toutes mes amies, tous mes petits camarades rustiques venaient glaner derrière les ouvriers dans nos prairies, et j'allais rapidement faire l'ouvrage de chacun d'eux, c'est-à-dire que prenant leur râteau, j'entamais dans nos récoltes, et qu'en un tour de main, je leur en donnais à chacun autant qu'il en pouvait emporter. Nos métayers faisaient la grimace, et je ne comprenais pas qu'ils n'eussent pas le même plaisir que moi à donner. Je maudissais le sort qui m'avait fait naître dame et châtelaine contre mon gré. J'enviais la condition des pastours, les bergers comme on les nomme dans le Berry. Mon plus doux rêve eût été de m'éveiller un beau matin sous leur chaume, de m'appeler Naniche ou Pierrot, et de mener mes bêtes au bord des chemins, sans solidarité avec les riches, sans appréhension d'un avenir qu'on me présentait si compliqué, si difficile et si antipathique à mon caractère. C'est en 1847 que George Sand, alors quadragénaire, entreprend l'écriture de ses mémoires, rassemblées sous le titre « Histoire de ma vie ». Dans le passage que nous venons d'entendre, elle convoque le souvenir de ses joyeuses heures buissonnières passées à Nohant à l'âge de 12 ans. Ces moments d'exaltation et de liberté vécus au plus près de la nature fondent très certainement le cycle de romans champêtres qu'elle entame en 1846 avec La mare au diable, bientôt suivi par François Le Champy, La petite fadette et Les maîtres sonneurs. Née en 1804 d'un mariage d'amour entre un aristocrate et une petite ouvrière, Aurore Dupin est élevée par sa grand-mère paternelle, propriétaire d'un domaine dans le Berry. Là, elle est instruite par un précepteur et partage son temps entre les livres, la rêverie et ses vagabondages dans la campagne. Née sous le joug du code Napoléon qui réduisait sévèrement les libertés de son sexe, la jeune Aurore se marie à 17 ans pour avoir une condition et donne bientôt naissance à deux enfants. Mais très vite, sa soif d'indépendance la porte à s'émanciper et elle endosse le pseudonyme de George Sand afin de vivre de sa plume comme journaliste, dramaturge et romancière. Profondément marquée par sa double ascendance, populaire et aristocratique, l'écrivain luttera toute sa vie pour une plus grande justice sociale. Mais revenons à La mare au diable. Dans les romans de ses contemporains, les paysans sont des rustres, méprisés ou moqués. Ici, George Sand fait sa petite révolution. Elle choisit pour héros un simple laboureur et une bergère, à qui elle donne une voix et une âme sensibles. Inconsolé depuis le décès de son épouse, Germain se destine à faire un mariage de raison quand une rencontre inattendue vient bouleverser son destin. Face au cynisme des arrangements, George Sand, vous l'aurez deviné, fera triompher la sincérité des sentiments. Car la littérature à ses yeux est le lieu de l'émotion et de l'engagement. Ce soir, plongeons au cœur du Berry, où s'enracine l'univers de la romancière, et découvrons avec elle cette intrigante vallée noire, pays de fraternité, de croyances et de rites venus du fond des âges. Avant de faire connaissance avec les personnages, posons le décor qui tient ici une place de choix. À l'origine de La Mare au Diable, George Sand, qui aimait dessiner à 16 heures, raconte avoir été frappé par une série de gravures anciennes, signées Holbein, représentant un laboureur poursuivi par le spectre de la mort. C'est en réaction à cette vision tragique du quotidien des travailleurs de la Terre qu'elle prend la plume. Voyons quel tableau plein de vitalité la narratrice lui oppose. Je marchais sur la lisière d'un champ que des paysans étaient en train de préparer pour la semaille prochaine. L'arène était vaste comme celle du tableau d'Holbein. Le paysage encadrait de grandes lignes de verdure, un peu rougies aux approches de l'automne. La journée était claire et tiède, et la terre, fraîchement ouverte par le tranchant des charrues, exhalait une vapeur légère. Dans le haut du champ, un vieillard dont le dos large et la figure sévère rappelaient celui d'Holbein, mais dont les vêtements n'annonçaient pas la misère, poussait gravement sa charrue de forme antique, traînée par deux bœufs tranquilles. Le vieux laboureur travaillait lentement, en silence, sans efforts inutiles. Mais ce qui attira ensuite mon attention était véritablement un beau spectacle, un noble sujet pour un peintre. À l'autre extrémité de la plaine labourable, un jeune homme, de bonne mine, conduisait un attelage magnifique. Quatre paires de jeunes animaux à robes sombres mêlées de noir et de fauve à reflets de feu, avec ses têtes courtes et frisées qui sentent encore le taureau sauvage, ses gros yeux farouches, ses mouvements brusques, ce travail nerveux et saccadé qui s'irrite encore du joug et de l'aiguillon et n'obéit qu'en frémissant de colère à la domination nouvellement imposée. C'est ce qu'on appelle des bœufs fraîchement liés. L'homme qui les gouvernait avait à défricher un coin naguère abandonné au pâturage et rempli de souches séculaires, travail d'athlète auquel suffisait à peine son énergie, sa jeunesse et ses 8 animaux quasi indomptés. Un enfant de 6 à 7 ans, beau comme un ange et les épaules couvertes d'une peau d'agneau, qui le faisait ressembler au petit Saint-Jean-Baptiste des peintres de la Renaissance, marchait dans le sillon parallèle à la charrue et piquait le flanc des bœufs avec une longue baguette de bois. Les fiers animaux frémissaient sous la petite main de l'enfant et faisaient grincer les courroies liées à leur front. Tout cela était beau de force ou de grâce. Le paysage, l'homme, l'enfant, les taureaux. Et malgré cette lutte puissante où la terre était vaincue, il y avait un sentiment de douceur et de calme profond qui planait sur toute chose. Il se trouvait donc que j'avais sous les yeux un tableau qui contrastait avec celui d'Holbein, quoique ce fût une scène pareille. Au lieu d'un triste vieillard, un homme jeune et dispo. Au lieu d'un attelage de chevaux efflanqués et harassés, un double quadrige de bœufs robustes et ardents. Au lieu de la mort, un bel enfant. Au lieu d'une image de désespoir et d'une idée de destruction, un spectacle d'énergie et une pensée de bonheur. Découvrons la grande affaire de ce roman, le remariage de Germain. Âgé de 28 ans, Germain est veuf depuis 2 ans et demeure inconsolable depuis la mort de sa chère Catherine. Il vit à Bel Air, en bonne entente avec ses beaux-parents métayers dont il cultive les terres sans ménager sa peine. Cependant, c'est aux femmes de la famille que revient la charge de ses 3 enfants, tandis qu'il est au champ. Aussi, son beau-père lui demande d'envisager sérieusement de donner une nouvelle mère à ses enfants, sans se priver de lui souffler comment la choisir. Relevons l'ironie qui pousse George Sand, qui a si souvent dénoncé l'aliénation du mariage, à placer un homme dans la situation classique des femmes de son siècle. Avisons donc ensemble au choix de ta nouvelle femme. D'abord, je ne suis pas d'avis que tu prennes une jeunesse. Ce n'est pas ce qu'il faut. La jeunesse est légère. Et comme c'est un fardeau d'élever 3 enfants, surtout quand ils sont dans notre lit, il faut une bonne âme bien sage, bien douce et très portée au travail. Si ta femme n'a pas environ le même âge que toi, elle n'aura pas assez de raisons pour accepter un pareil devoir. Elle te trouvera trop vieux et tes enfants trop jeunes. Elle se plaindra et tes enfants en pâtiront. Voilà justement ce qui m'inquiète, dit Germain. Si ces pauvres petits venaient à être maltraités, haïs, battus... À Dieu ne plaise, reprit le vieillard. Mais les méchantes femmes sont plus rares dans notre pays que les bonnes. Il faudrait être fou pour ne pas mettre la main sur celle qui convient. C'est vrai, mon père. Il y a de bonnes filles dans notre village. Il y a Louise... La Sylvaine, la Claudie, la Marguerite, enfin, celle que vous voudrez. Doucement, doucement, mon garçon. Toutes ces filles-là sont trop jeunes, ou trop pauvres, ou trop jolies filles. Car enfin, il faut penser à cela aussi, mon fils. Une jolie femme n'est pas toujours aussi rangée qu'une autre. Vous voulez donc que j'en prenne une laide ? Dit Germain, un peu inquiet. Non, point laide, car cette femme te donnera d'autres enfants. Mais une femme encore fraîche, d'une bonne santé, qui ne soit ni belle ni laide, ferait très bien ton affaire. Je vois bien, dit Germain en souriant un peu tristement, que pour la voir telle que vous la voulez, il faudra la faire faire exprès. D'autant plus que vous ne la voulez point pauvre, et que les riches ne sont pas faciles à obtenir, surtout pour un veuf. Et si elle était veuve elle-même, Germain ? Là, une veuve sans enfant et avec un bon bien. Je n'en connais pas pour le moment dans notre paroisse. Ni moi non plus, mais il y en a ailleurs. Si vous avez quelqu'un en vue, mon père, dites-le tout de suite. Oui, j'ai quelqu'un en vue, répondit le père Maurice. C'est la veuve Guérin, fille de mon ami Léonard, qui demeure à Fourche, à 3 lieues d'ici. Je ne connais ni la femme ni l'endroit, répondit Germain résigné, mais de plus en plus triste. Elle s'appelle Catherine, comme ta défunte. Catherine ? Oui, ça me fera plaisir d'avoir à dire ce nom-là, Catherine. Et pourtant, si je ne peux pas l'aimer autant que l'autre, ça me fera encore plus de peine. Je te dis que tu l'aimeras. C'est un bon sujet, une femme de grand cœur. Je n'ai pas vu depuis longtemps. Elle n'était pas laide fille alors. Mais elle n'est plus jeune, elle a 32 ans. Elle est d'une bonne famille, tous braves gens. Et elle a bien pour 8 ou 10 000 francs de terre, qu'elle vendrait volontiers pour en acheter d'autres dans l'endroit où elle s'établirait. Vous avez donc arrangé tout cela ?
Oui, sauf votre avis à tous les deux. Et c'est ce qu'il faudrait vous demander l'un à l'autre en faisant connaissance.
Résigné, Germain quitte Bel Air pour faire connaissance avec la femme qu'on lui destine, mais le chemin lui réserve bien des surprises. Avant de partir, sa belle-mère lui demande d'accompagner la fille d'une voisine qui va travailler comme bergère dans la même région. Les voilà donc chevauchant à travers la campagne, chacun en proie à de sombres pensées. La petite Marie est bouleversée de quitter sa pauvre mère pour la première fois, tandis que Germain, le cœur lourd, songe que seul un amour sincère serait à même de le consoler de son deuil. Mais pour l'heure, écoutons la romancière détailler les charmes de son héros. Dans notre monde à nous, il ne viendrait pas à la pensée d'une mère de confier une fille de 16 ans à un homme de 28. D'autant que Germain était le plus bel homme de l'endroit et que le travail ne l'avait pas flétri comme la plupart des paysans qui ont 10 années de labourage sur la tête. Il était de force à labourer encore 10 ans sans paraître vieux. Et il eût fallu que le préjugé de l'âge fût bien fort sur l'esprit d'une jeune fille pour l'empêcher de voir que Germain avait le teint frais, l'œil vif et bleu comme le ciel de mai, la bouche rose, les dents superbes, le corps élégant et souple comme celui d'un cheval qui n'a pas encore quitté le pré. Mais la chasteté des mœurs est une tradition sacrée dans certaines campagnes éloignées du mouvement corrompu des grandes villes. Et entre toutes, les familles de Bel Air et celle de Maurice, le beau-père de Germain, étaient réputées honnêtes. Germain s'en allait chercher femme, et Marie était une enfant trop jeune et trop pauvre pour qu'il y songeât dans cette optique. Tandis qu'ils chevauchaient, chacun à sa peine, Germain rompit le silence. « Je n'ai pas embrassé mon petit Pierre avant de partir. Le mauvais enfant n'était pas là. Il voulait hier au soir me faire promettre de l'emmener et il a pleuré pendant 1 heure dans son lit. Ce matin encore, il a tout essayé pour me persuader. Oh, qu'il est adroit et câlin. Mais quand il a vu que ça ne se pouvait pas, monsieur s'est fâché. » Il est parti dans les champs et je ne l'ai plus revu de la journée. « Moi, je l'ai vu, » dit la petite Marie en faisant un effort pour rentrer ses larmes. « Il courait du côté des bois coupés et je me suis bien douté qu'il était hors de la maison depuis longtemps, car il avait faim et mangeait des prunelles et des mûres de buisson. Je lui ai donné le pain de mon goûter. Il me dit « Merci, ma mignonne. Quand tu viendras chez nous, je te donnerai de la galette. » »« C'est un enfant trop gentil que vous avez là, Germain. » »« Oui, il est gentil, » reprit le laboureur. « Mais je ne sais pas ce que je ne ferais pas pour lui. » Si sa grand-mère n'avait pas eu plus de raison que moi, je n'aurais pas pu me tenir de l'emmener quand je le voyais pleurer si fort. Mais il paraît qu'il aurait été de trop là où je vais, et qu'il ne faut pas commencer par faire voir les charges du ménage. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, petite Marie. Tu ne dois pas y comprendre grand-chose. Si fait, Germain, je sais que vous allez vous marier, ma mère me l'a dit, en me recommandant de n'en parler à personne. Tu feras bien, car ce n'est pas fait. Peut-être que je ne conviendrai pas à la femme en question. Il faut espérer que si, Germain. Pourquoi donc ne lui conviendrez-vous pas ? Qui sait, j'ai 3 enfants et c'est lourd pour une femme qui n'est pas leur mère. C'est vrai, mais vos enfants ne sont pas comme d'autres enfants. Ils sont beaux comme de petits anges et si bien élevés qu'on ne peut pas en avoir de plus aimables. Moi, à votre place, j'aurais amené l'aîné. Ça vous aurait fait aimer tout de suite d'avoir un enfant si beau. Comme il devisait ainsi, la jument fit un écart en dressant les oreilles. Puis il revint sur ses pas et se rapprocha du buisson où quelque chose l'avait effrayé. Germain jeta un regard sur le buisson. Et vit dans le fossé, sous les branches épaisses et encore fraîches, quelque chose qu'il prit pour un agneau. « C'est une bête égarée, dit-il, ou morte, car elle ne bouge pas. Peut-être que quelqu'un la cherche, il faut voir. »« C'est pas une bête, s'écria la petite Marie, c'est un enfant qui dort.
C'est votre aîné, petit Pierre. Par exemple, dit Germain en descendant de cheval. Voyez ce petit garnement qui dort là, si loin de la maison et dans le fossé où quelques serpents pourraient bien le trouver. Il prit dans ses bras l'enfant qui lui sourit en ouvrant les yeux et jeta ses bras autour de son cou en lui disant « Mon petit père, tu vas m'emmener avec toi ?» Et Germain, qui avait le cœur aussi tendre et faible que celui d'une femme, ne put résister bien longtemps et l'installa sur le devant de la jument. Perdus dans les bois, Germain et Marie font plus ample connaissance.
Ce qui m'empêche de bien m'orienter, c'est ce sacré brouillard. Je me demande si on ne tourne pas le dos à fourche. Je crois qu'on est ensorcelé. Ces bois sont pas assez grands pour qu'on s'y perde. À moins d'être sous. Voilà 2 heures qu'on y tourne, sans pouvoir en sortir.
Chevauchant depuis quelques heures, les voyageurs tournent en rond dans les bois, désormais noyés dans un épais brouillard. Ils finissent par mettre pied à terre pour soulager la jument qui avance avec peine dans ce décor inquiétant et commence à harceler. Germain propose une halte sous les chênes, mais la jument en profite pour se sauver. Marie ne se laisse pas abattre et improvise un bivouac autour d'un grand feu pour les réchauffer. Germain est vivement impressionné par la jeune fille, si pleine de vivacité et de sollicitude maternelle. « Je vais m'asseoir auprès du petit pour qu'il ne lui tombe pas d'étincelles sur le corps, » dit la jeune fille. « Vous mettez du bois et animez le feu, Germain ?» Nous n'attraperons ici ni fièvre ni rhume, je vous en réponds. Ma foi, tu es une fille d'esprit, dit Germain. Tu sais faire le feu comme une petite sorcière de nuit. Je me sens tout ranimé et le cœur me revient. Car avec les jambes mouillées jusqu'aux genoux et l'idée de rester comme cela jusqu'au point du jour, j'étais de fort mauvaise humeur tout à l'heure. Et quand on est de mauvaise humeur, on ne s'avise de rien, reprit la petite Marie. Et tu n'es donc jamais de mauvaise humeur, toi ?
Non, jamais. À quoi bon ?
Bon, ce n'est bon à rien, certainement, mais le moyen de s'en empêcher quand on a des ennuis. Dieu sait que tu n'en as pas manqué, toi, pourtant, ma pauvre petite, car tu n'as pas toujours été heureuse.
C'est vrai, nous avons souffert, ma pauvre mère et moi. Nous avions du chagrin, mais nous ne perdions jamais courage.
Je ne perdrais pas courage pour quelque ouvrage que ce fût, dit Germain. Mais la misère me fâcherait, car je n'ai jamais manqué de rien. Ma femme m'avait fait riche et je le suis encore. Je le serai tant que je travaillerai à la métairie. Ce sera toujours, j'espère. Mais chacun doit avoir sa peine. J'ai souffert autrement.
Oui, vous avez perdu votre femme, et c'est grand pitié, n'est-ce pas ?
Oh, je l'ai bien pleurée, allez, Germain, car elle était si bonne.
Tenez, n'en parlons plus, car je la pleurerai encore. Tous mes chagrins sont en train de me revenir aujourd'hui.
C'est vrai qu'elle t'aimait beaucoup, petite Marie. Elle faisait grand cas de toi et de ta mère.
Allons, tu pleures ?
Voyons, ma fille, je ne veux pas pleurer, moi.
Vous pleurez pourtant, Germain. Vous pleurez aussi.
Quelle honte y a-t-il pour un homme à pleurer sa femme ?
Ne vous gênez pas, allez. Je suis bien de moitié avec vous dans cette peine-là.
Tu as bon cœur, Marie. Et ça me fait du bien de pleurer avec toi.
Mais approche donc tes pieds du feu. Tu as tes jupes toutes mouillées aussi, pauvre petite fille. Tiens, je vais prendre ta place auprès du petit. Chauffe-toi mieux que ça.
Je suis assez chaud, dit Marie.
Et si vous voulez vous asseoir, prenez un coin du manteau, moi je suis très bien.
Le fait est qu'on est pas mal ici, dit Germain en s'asseyant tout près d'elle. Il n'y a que la faim qui me tourmente un peu.
Est-ce que tu n'as pas faim aussi, toi, Marie ?
Moi, pas du tout. Je suis pas habitué comme vous à faire 4 repas. Et j'ai été tant de fois me coucher sans souper qu'une fois de plus ne m'étonne guère.
Eh bien, c'est commode, une femme comme toi. Ça fait pas de dépenses, dit Germain en souriant.
Oh, je ne suis pas une femme, dit naïvement Marie sans s'apercevoir de la tournure que prenaient les idées du laboureur.
Est-ce que vous rêvez ?
Oui, je crois que je rêve, répondit Germain. C'est la faim qui me fait divaguer, peut-être.
Prolongeons cet épisode digne d'un conte et voyons comment Germain est de plus en plus ébloui par cette petite fée. Marie a improvisé d'une main de maître un festin de châtaignes et de gibier cuit dans la cendre, comme le faisait Georges Sand adolescente avec ses camarades. Petit Pierre se régale avant de s'endormir dans ses bras, rêvant tout haut de la prendre pour mère. De plus en plus agité, Germain s'efforce de contenir son trouble.
Vous regardez la braise comme votre petit faisait tout à l'heure. Allons dormir, je veillerai à l'enfant et à vous.
C'est toi qui dormiras, répondit le laboureur. Et moi je vous garderai tous les deux, car jamais je n'ai eu moins envie de dormir. J'ai 50 idées dans la tête.
50 ? Beaucoup, dit la fillette avec une intention un peu moqueuse. Il y a tant de gens qui seraient heureux d'en avoir une. Eh bien, si je ne suis pas capable d'en avoir 50, j'en ai du moins une qui ne me lâche pas depuis une heure.
Et je vais vous la dire, ainsi que celle que vous aviez auparavant.
Eh bien oui, dis-la si tu la devines, ça me fera plaisir.
Il y a une heure, reprit-elle, vous aviez l'idée de manger.
Et à présent, vous avez l'idée de dormir.
Marie, je ne suis qu'un bouvier, mais vraiment tu me prends pour un bœuf.
Tu es une méchante fille. Je vois bien que tu ne veux point causer avec moi.
Dors donc, cela vaudrait mieux que de critiquer un homme qui n'est pas gai.
Si vous voulez causer, causons, dit la jeune fille en se couchant à demi auprès de l'enfant.
Marie, tu vas vivre loin de tes parents et dans un vilain pays de landes et de marécages où tu attraperas les fièvres d'automne. Enfin, tu seras au milieu d'étrangers qui ne seront peut-être pas bons pour toi,
qui ne comprendront pas ce que tu vaux.
Tiens, ça me fait plus de peine que je ne peux te le dire et j'ai envie de te ramener chez ta mère au lieu d'aller à Fourche.
Vous parlez avec beaucoup de bonté, mais sans raison, mon pauvre Germain. On ne doit pas être lâche pour ses amis. Et au lieu de me montrer le mauvais côté de mon sort, vous devriez me montrer le bon.
Tu ferais mieux de te trouver un mari.
Mais ça ne se peut pas, Germain. Je suis pauvre comme Job et je ne me marierai que quand j'aurai un peu amassé.
Peut-être que si tu voulais me dire comment tu souhaiterais qu'il fût, je parviendrais à imaginer quelqu'un.
Je n'imagine rien puisque c'est inutile.
Et s'il était à son aise, ça ne te ferait pas de peine d'être bien logé, bien nourri, bien vêtu et dans une famille de braves gens qui te permettraient d'assister ta mère.
Oh, pour cela, oui, assister ma mère est tout mon souhait.
Et si l'homme n'était pas de la première jeunesse, tu ne ferais pas trop la difficile ?
Ah, pardonnez-moi, Germain, c'est justement la chose à laquelle je tiendrais. Je n'aimerais pas un vieux.
Un vieux, sans doute, mais par exemple, un homme de mon âge.
Votre âge est vieux pour moi, Germain.
Je vois bien, Marie, que je te déplais. C'est assez clair, dit Germain avec dépit et sans peser ses paroles.
La petite Marie ne répondit pas.
Germain se pencha vers elle. Elle dormait. Elle était tombée vaincue et comme foudroyée par le sommeil, comme font les enfants qui dorment déjà lorsqu'ils babillent encore.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Marie l'orpheline, Marie mon amour, contre ma poitrine viens serrer tes jours. Marie les angoisses, Marie déchirée, sors de ton impasse quand le bonheur veut t'adopter. Marie l'orpheline, Marie les tourments, laisse sur tes ruines courir le printemps. Marie la souffrance, Marie la douleur, viens chercher l'enfance au cœur de mon cœur. Laisse le bonheur allumer tes yeux, étouffer ta peur et mettre le feu au fond de ton cœur qui n'a jamais vu le ciel bleu. Marie sans famille, Marie délaissée, sors de ta coquille, chasse tes pensées, viens prendre racine là où la passion, Marie l'orpheline, veut t'offrir un nom. Marie l'orpheline, Marie crucifiée, en vain tu t'obstines à tout refuser. Marie la misère, surtout ne sois pas Marie cœur de pierre quand le bonheur te tend les bras. Marie l'orpheline, accepte l'amour pour qu'il t'illumine et fasse qu'un jour Marie la détresse devienne pour moi Marie la tendresse éperdue de joie. Lave-toi d'hier, laisse-toi sécher par ces soleils clairs, par ces vents d'été que d'un cœur ouvert l'amour propose à tes pensées. Marie, tout commence au jour de demain et notre existence est entre tes mains. Sans toi, j'imagine que je ne suis rien, Marie l'orpheline, qu'un autre orphelin.
est évident, et tout le monde le sait maintenant, que George Sand, dans son œuvre littéraire, était à l'avant-garde.
Aurore Sand, petite fille de George Sand.
Elle était tout à fait, comme vous dites, à l'avant-garde. Elle était surtout une personne qui voyait en avant. Et si elle est beaucoup aimée, même maintenant, c'est que les femmes commencent à comprendre quel service elle leur a rendu.
Chaviré par la jeune fille, Germain résiste toute la nuit à la tentation d'embrasser Marie. Il finit par lui déclarer sa flamme, mais cette dernière les conduit et lui rappelle le but de son voyage, épouser la veuve Guérin. Au petit matin, nos voyageurs se séparent froidement. Petit Pierre et Marie se rendent à la bergerie des Ormeaux, alors que Germain, le cœur lourd, part rencontrer la riche veuve qu'on lui a choisie. À son arrivée, il est accueilli par son futur beau-père, Monsieur Léonard, et découvre ahuri la petite cour de prétendants qui entoure sa promise.
« Allons, entrez, vous dis-je, ne perdez pas courage. Ma Catherine a de quoi attirer les épouseurs, c'est une femme qui vaut la peine d'être disputée. »
En poussant Germain par les épaules avec une rude gaieté,
« Allons Catherine, en voilà un de plus !»
Cette manière joviale mais grossière d'être présentée à la veuve, en présence de ses autres soupirants, acheva de troubler et de mécontenter le laboureur. Il se sentit gauche et resta quelques instants sans oser lever les yeux sur sa belle et sur sa cour. La veuve Guérin était bien faite et ne manquait pas de fraîcheur. Mais elle avait une expression de visage et une toilette qui déplurent tout d'abord à Germain. Elle avait l'air hardie et contente d'elle-même. Son habillement et ses manières dégagées la lui firent trouver vieille et laide, quoiqu'elle ne fût ni l'un ni l'autre. Il pensa qu'une si jolie parure et des manières enjouées siéraient à l'âge et à l'esprit de la petite Marie, mais que cette veuve avait la plaisanterie lourde et hasardée, et qu'elle portait sans distinction ses beaux atours. Les trois prétendants étaient assis à une table chargée de vin et de viande, et le père Léonard l'installa avec ses rivaux en s'asseyant en face de lui. Germain avait offert un large éventail de gibier et la veuve y parut sensible. Mais il se sentait mal à l'aise en cette compagnie et ne mangeait pas de bon cœur. Le père Léonard l'en plaisanta.
« Vous voilà bien triste, lui dit-il, et vous boudez votre verre. Il ne faut pas que l'amour vous coupe l'appétit, car un galant à jeun ne sait point trouver de jolies paroles comme celui qui s'est éclairci les idées avec une petite pointe de vin. »
Germain fut mortifié qu'on le supposât déjà amoureux, et l'air maniéré de la veuve, qui baissa les yeux en souriant comme une personne sûre de son fait, lui donna l'envie de protester. Mais il craignit de paraître incivil, sourit et prit patience. Les galants de la veuve lui parurent trois rustres. Il fallut qu'ils fussent bien riches pour qu'elle admît leurs prétentions. L'un avait plus de 40 ans et était quasi aussi gros que le père Léonard. Un autre était borgne et buvait tant qu'il en était abruti. Le troisième était jeune et assez joli garçon, mais il voulait faire de l'esprit et disait des choses si plates que cela faisait pitié. Pourtant, la veuve en riait comme si elle eût admiré toutes ses sottises. Et en cela, elle ne faisait pas preuve de goût. Plus tard, la petite cour se rendit à la messe. Puis à un bal champêtre. Mais Germain se tenait à l'écart. Le père Léonard vint le trouver. « Écoutez, je vois que vous êtes très fier, mais ceci n'est pas raisonnable, mon garçon. Ma fille est habituée à être courtisée, surtout depuis 2 ans qu'elle a fini son deuil. Et ce n'est pas à elle à aller au-devant de vous. Il y a déjà 2 ans que votre fille est à marier. Et elle n'a pas encore pris son parti, dit Germain. Elle ne veut pas se presser et elle a raison. Elle a très bien compris que le meilleur temps de sa vie serait celui qu'elle passerait à se laisser courtiser. Et elle ne se sent pas pressée de devenir la servante d'un homme quand elle peut commander à plusieurs. Ainsi, tant que le jeu lui plaira, elle peut se divertir. Mais si vous plaisez plus que le jeu pourra cesser. Pardon, père Léonard, votre fille a le droit d'agir comme elle l'entend et je n'ai pas celui de la blâmer. À sa place, j'agirai autrement. Seulement, il faut que je vous dise une chose qui m'embarrasse un peu à vous avouer depuis ce matin, vu que vous avez commencé par vous tromper sur mes intentions et que vous ne m'avez pas donné le temps de vous répondre. Si bien que vous croyez ce qui n'est point. Sachez donc que je ne suis pas venu dans la vue de demander votre fille en mariage, mais dans celle de vous acheter une paire de bœufs.
« J'entends, Germain, répondit Léonard fort tranquillement. Vous avez changé d'idée en voyant ma fille avec ses amoureux. C'est comme il vous plaira. Il paraît que ce qui attire les uns rebute les autres et vous avez le droit de vous retirer puisque vous n'avez pas encore parlé. »
Nous voilà tout près de la mare au diable, ce lieu maléfique qui semble incarner la tentation charnelle et dont seuls les cœurs purs réchappent. Lorsqu'il arrive à la ferme des Ormeaux pour retrouver Marie et son fils, le laboureur apprend que la jeune fille est partie précipitamment. Redoutant un malheur, il se lance immédiatement à sa recherche.
« Vous n'avez pas vu une jeune fille avec un petit garçon ?»
Les paysans qu'il croise en chemin ne tardent pas à révéler la sombre réputation du propriétaire de la bergerie et son goût prononcé pour les jeunes femmes. Fou d'inquiétude et de colère, Germain gagne bientôt l'endroit où il avait séjourné la veille, un lieu maudit que l'on appelle la mare au diable.
C'est ici la mare au diable. C'est un mauvais endroit. Il faut pas s'en approcher sans jeter 3 pierres dedans de la main gauche, en faisant le signe de la croix de la main droite. Ça éloigne les esprits. Autrement, il arrive des malheurs à ceux qui en font le tour.
Je vous parle pas de ça. Vous avez pas vu dans le bois une jeune fille avec un petit enfant? Marie! Marie!
C'est là que Germain et Marie, nos fiers héros, affrontent bientôt l'ignoble fermier. Germain parcourait le bois en appelant Pierre de toutes ses forces et en sifflant, faisant claquer son fouet, cassant les branches pour remplir la forêt du bruit de sa marche, écoutant ensuite si quelques voix lui répondaient. Mais il n'entendait que la cloche des vaches éparses dans les taillis et le cri sauvage des porcs. Enfin, Germain entendit derrière lui le bruit d'un cheval qui courait sur ses traces et un homme entre 2 âges, brun, robuste, habillé comme un demi-bourgeois, lui cria de s'arrêter. Germain n'avait jamais vu le fermier des Ormeaux, mais un instinct de rage lui fit juger de suite que c'était lui. Il se retourna et, le toisant de la tête aux pieds, il attendit ce qu'il avait à lui dire. « N'avez-vous pas vu passer par ici une jeune fille de 15 ou 16 ans avec un petit garçon ?» dit le fermier en affectant un air d'indifférence, quoiqu'il fût visiblement ému. « Et que lui voulez-vous ? » répondit Germain sans chercher à déguiser sa colère. « Je pourrais vous dire que ça ne vous regarde pas, mon camarade. Mais comme je n'ai pas de raison pour le cacher, je vous dirai que c'est une bergère que j'avais louée pour l'année sans la connaître. Quand je l'ai vue arriver, elle m'a semblé trop jeune et trop faible pour l'ouvrage de la ferme. Je l'ai remerciée, mais je voulais lui payer les frais de son petit voyage et elle est partie fâchée pendant que j'avais le dos tourné. » Germain avait l'âme trop honnête pour ne pas hésiter en entendant cette histoire. « Je vais en avoir le cœur net, » se dit-il, contenant son indignation. « C'est une fille de chez nous, » dit-il. « Je la connais. Elle doit être par ici. Avançons ensemble, nous la retrouverons sans doute. » « Vous avez raison, » dit le fermier. « Et si nous ne la trouvons pas au bout de l'avenue, j'y renonce. »« Oh, » pensa le laboureur, « je ne te quitte pas. Quand bien même je devrais tourner 24 heures avec toi autour de la mare au diable. » « Attendez, » dit tout à coup Germain en fixant des yeux une touffe de genêt qui s'agitait singulièrement. « Hola ! Hola, petit Pierre, reste-toi, mon enfant ?»« Viens, mon Pierre, viens, c'est moi !» s'écria-t-il en sautant à bas de son cheval pour le prendre dans ses bras. « Où est la petite Marie ?» « Elle est là qui se cache parce qu'elle a peur de ce vilain homme en noir, et moi aussi. »« Eh, sois tranquille, je suis là. Marie ! Marie, c'est moi !» Marie approcha en rampant, et dès qu'elle vit Germain, que le fermier suivait de près, elle courut se jeter dans ses bras et s'attachant à lui comme une fille à son père. « Ah, mon brave Germain !» lui dit-elle. « Vous me défendez ? Je n'ai plus peur avec vous. » Germain eut un frisson. Il regarda Marie. Elle était pâle, ses vêtements étaient déchirés par les épines où elle avait couru, cherchant le fourré comme une biche traquée par les chasseurs. Mais il n'y avait ni honte ni désespoir sur sa figure. « Ton maître veut te parler, » lui dit-il en observant toujours ses traits. « Mon maître ? » dit-elle fièrement. « Cet homme-là n'est pas mon maître et ne le sera jamais. C'est vous, Germain, qui êtes mon maître. Je veux que vous me rameniez avec vous. » Le fermier s'était agacé, feignant un peu d'impatience. « Hé, la petite, » dit-il, « venez prendre votre argent au moins. » « Mon argent ? Vous ne me devez rien, Dieu merci. » « Marie, écoute ce qu'il a à te dire, car je suis curieux de le savoir, j'ai mes raisons pour ça. Va auprès de son cheval, je ne te perds pas de vue. » Marie fit 3 pas vers le fermier, qui lui dit en se penchant sur le pommeau de sa selle et en baissant la voix, « Petite, voilà un beau louis d'or pour toi. Tu ne diras rien, entends-tu ? Je repasserai par chez vous un de ces jours et si tu n'as rien dit, je te donnerai encore quelque chose. Et puis, si tu es raisonnable, j'irai causer avec toi à la brune dans les prés. Quel cadeau veux-tu que je te porte ? Voilà, monsieur, le cadeau que je vous fais, moi, répondit à haute voix la petite Marie en lui jetant son louis d'or au visage et même assez rudement. Je vous prie de me faire avertir quand vous passerez chez nous. Tous les garçons de mon endroit iront vous recevoir parce que chez nous, on aime fort les bourgeois qui veulent en compter aux pauvres filles. « Vous êtes une menteuse et une sotte langue !» dit le fermier courroucé en levant son bâton d'un air de menace. Mais Germain s'élança jusqu'à lui, le désarçonna et le terrassa. « Homme de peu de cœur, lui dit-il, je pourrais te rouer de coups si je voulais. Mais je n'aime pas faire du mal et d'ailleurs aucune correction n'amenderait ta conscience. Tu me fais peine, » répondit Germain en lui poussant la face contre terre, « et j'ai hâte de ne plus voir ta méchante mine. » Il ramassa le bâton de houx du fermier, le brisa sur son genou pour lui montrer la force de ses poignets et en jeta les morceaux au loin avec mépris. Puis, prenant d'une main son fils et de l'autre la petite Marie, il s'éloigna tout tremblant d'indignation.
poursuivons ce vibrant plaidoyer en faveur de la noblesse de cœur paysanne. En racontant dans quelles circonstances Germain avait été accueilli par la veuve Guérin, ses beaux-parents n'ont rien trouvé à redire à son refus de l'épouser. Mais revenu à son célibat, le laboureur est de plus en plus triste, rongé en secret par ses sentiments pour Marie. Inquiète pour son gendre, la mère Maurice interrompt ses tâches domestiques et engage la conversation avec lui.
Sans doute, il y a quelque part une femme qui est faite pour vous. Car le bon Dieu ne fait personne sans lui réserver son bonheur dans une autre personne. Si donc vous savez où la prendre, cette femme qu'il vous faut, prenez-la. Et qu'elle soit belle ou laide, jeune ou vieille, riche ou pauvre, nous sommes décidés, mon vieux et moi, à vous donner consentement. Car nous sommes fatigués de vous voir triste. Et nous ne pouvons pas vivre tranquille si vous ne l'êtes point. Ma mère, vous êtes aussi bonne que le bon Dieu. Et mon père, pareillement. Votre compassion ne peut pas porter remède à mes ennuis. La fille que je voudrais ne veut point de moi. C'est donc qu'elle est trop jeune. S'attacher à une jeunesse est des raisons pour vous. Eh bien oui, bonne mère, c'est cette folie de m'être attachée à une jeunesse et je m'en blâme. Je fais mon possible pour n'y plus penser. Mais que je travaille ou que je me repose, que je sois à la messe ou dans mon lit, avec mes enfants ou avec vous, j'y pense toujours. Je ne peux pas penser à autre chose. Alors c'est comme un sort qu'on vous a jeté, Germain. Il n'y a à cela qu'un remède. C'est que cette fille change d'idée et vous écoute. Vous allez me dire où elle est et comment on l'appelle. Hélas, ma chère mère, je n'ose pas, vous allez vous moquer de moi. Je ne me moquerai pas de vous, Germain, parce que vous êtes dans la peine et que je ne veux pas vous y mettre davantage. Serait-ce point la fanchette? Non, ma mère, ce n'est point. Ou la rosette? Non. Dites donc, car je n'en finirai pas s'il faut que je nomme toutes les filles du pays. Germain baissa la tête et ne put se décider à répondre. Allons, dit la mère Maurice. Je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, Germain. Peut-être que demain vous serez plus confiant avec moi. Et elle ramassa sa corbeille pour aller étendre son linge sur les buissons. Germain fit comme les enfants qui se décident quand ils voient qu'on ne s'occupera plus d'eux. Il suivit sa belle-mère et lui nomma enfin en tremblant la petite Marie. Grande fut la surprise de la mère Maurice. C'était la dernière à laquelle elle eut songé, mais elle eut la délicatesse de ne point se récrier et de faire mentalement ses commentaires. Puis, voyant que son silence accablait Germain, elle lui tendit sa corbeille en lui disant « Alors, est-ce une raison pour ne point m'aider dans mon travail? Portez donc cette charge et venez parler avec moi. » Assistons enfin au triomphe de l'amour. La force des sentiments de Germain a convaincu ses beaux-parents d'accepter cette union en dépit de l'âge et de la pauvreté de Marie. Plus soucieux du bonheur de leur gendre que de leurs propres intérêts, ces derniers l'encouragent donc à renouveler sa demande à Marie. Suivons donc Germain alors qu'il rejoint la jeune femme dans sa modeste chaumière et voyons comment l'amour lui délie miraculeusement la langue. Petite Marie, lui dit-il en s'asseyant auprès d'elle tout près du feu, je viens te faire de la peine et t'ennuyer, je le sais bien, mais une nouvelle fois, je te demande de m'épouser. « Germain, répondit la petite Marie, c'est donc décidé que vous m'aimez. Ça te fâche, je le sais, mais ce n'est pas ma faute. Si tu pouvais changer d'avis, je serais trop content. Voyons, regarde-moi, Marie, suis-je si affreux ?»« Non, Germain, répondit-elle en souriant, vous êtes plus beau que moi. Ne te moque pas, regarde-moi avec indulgence. Il ne me manque pas encore ni un cheveu ni une dent. Mes yeux te disent que je t'aime. » Regarde-moi donc dans les yeux, ça y est écrit, et toute fille sait lire dans cette écriture-là. Marie regarda dans les yeux de Germain avec son assurance enjouée, puis tout à coup elle détourna la tête et se mit à trembler. « Oh mon Dieu, je te fais peur, dit Germain. Tu me regardes comme si j'étais le fermier des ormeaux. Ne me crains pas, je t'en prie, cela me fait trop de mal. Je te dirai pas de mauvaises paroles, moi. Je ne t'embrasserai pas malgré toi. Et quand tu voudras que je m'en aille, tu n'auras qu'à me montrer la porte. » « Voyons, faut-il que je sorte pour que tu finisses de trembler ?» Marie tendit la main au laboureur, mais sans détourner sa tête penchée vers le foyer et sans dire un mot. « Pauvre petit, tu as bon cœur, je le sais. Mais tu ne m'aimes pas et tu me caches ta figure parce que tu crains de me laisser voir ton déplaisir et ta répugnance. Et moi, je n'ose pas seulement te serrer la main. Dans le bois, quand mon fils dormait et que tu dormais aussi, j'ai failli t'embrasser tout doucement. Mais je serais mort de honte plutôt que de te le demander et j'ai autant souffert dans cette nuit-là qu'un homme qui brûlerait à petit feu. Depuis ce temps-là, j'ai rêvé à toi toutes les nuits. Oh, comme je t'embrassais, Marie. Mais toi, pendant ce temps-là, tu dormais sans rêver. Germain parlait comme dans un rêve sans entendre ce qu'il disait. La petite Marie tremblait toujours, mais comme il tremblait encore davantage, il ne s'en apercevait plus. Tout à coup, elle se retourna. Elle était tout en larmes et le regardait d'un air de reproche. Le pauvre laboureur crut que c'était le dernier coup, et sans attendre son arrêt, il se leva pour partir. Mais la jeune fille l'arrêta, en l'entourant de ses deux bras et cachant sa tête dans son sein. « Ah, Germain !» lui dit-elle en sanglotant. « Vous n'avez donc pas deviné que je vous aime ?» Germain serait devenu fou si son fils, qui le cherchait et qui entra dans la chaumière au grand galop sur un bâton, avec sa petite sœur en croupe qui fouettait avec une branche d'osier ce coursier imaginaire, ne lui rappelait à lui-même. Il le souleva dans ses bras et le mettant dans ceux de sa fiancée. « Tiens, lui dit-il, tu as fait plus d'un heureux en m'aimant. »
L'amour, l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. À l'amour, à l'amour. C'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, l'amour, à l'amour dont on parle toujours. L'amour. Mais la nuit un bonnet et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour, l'amour, c'est parfois même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. À l'amour, à l'amour, dont on parle toujours. À l'amour, c'est plus d'une fois un panier vide au bras, l'arc-en-ciel sur deux cœurs. À l'amour, à l'amour, c'est quand je t'aime. À l'amour, c'est quand tu m'aimes. Sans me le dire, sans te le dire. À l'amour, l'amour, c'est quand tu m'aimes. L'amour, c'est quand je t'aime. Sans te le dire, sans me le dire.
Michèle Perrot, historienne.
Il y a un très grand souci d'écriture. Il ne faut pas croire que Georges Sand, qui avait une écriture facile, en effet, n'accordait pas d'importance au style. Elle recherchait son style. Surtout, elle réfléchissait beaucoup au mode d'écrire. Comment faire parler des paysans ?
Tout à l'heure, vous m'avez demandé si je désirais quelque chose. Je vais vous dire, Père Maurice, en quoi vous pouvez m'obliger.
C'est quoi ?
Si on les fait parler à la paysanne, ça paraît une caricature, c'est ridicule. Et d'un autre côté, il faut aussi faire entendre leur voix, qui est une voix très particulière. Dans ce domaine-là, elle a eu une réflexion d'un très grand intérêt, et on peut dire que Georges Sand est en quelque sorte la première ethnologue des campagnes françaises.
Il y a à peine de quoi faire vivre une seule personne sur notre pain de terre. Et puisque Marie est en âge, la voilà qui prend 16 ans.
Concluons cette histoire en beauté par une noce champêtre. Les festivités matrimoniales sont au XIXe siècle un moment clé de la vie sociale berrichonne, célébré pendant 3 journées et 3 nuits blanches. Ethnologue à 16 heures, la romancière, qui s'inspire du mariage d'une de ses domestiques, souligne la richesse d'une culture païenne venue du fond des âges et menacée de disparaître. Dans l'épisode qu'elle relate, le soupirant, après avoir conquis de haute lutte l'accès au domicile de la mariée, doit encore la reconnaître, malgré le drap qui la dissimule. Voyons comment Germain relève cet ultime défi. La fiancée avait été cachée avec trois de ses compagnes par sa mère, sa marraine et ses tantes, qui avaient fait asseoir les quatre jeunes filles sur un banc dans un coin reculé de la salle et les avaient couvertes d'un grand drap blanc. Les trois compagnes avaient été choisies de la même taille que Marie et leurs cornettes de hauteur identique, de sorte que le drap leur couvrant la tête et les enveloppant jusque par-dessous les pieds, il était impossible de les distinguer l'une de l'autre. Le fiancé ne devait les toucher qu'avec le bout de sa baguette, et seulement pour désigner celle qu'il jugeait être sa femme. On lui donnait le temps d'examiner avec les yeux seulement, et les matrones, placées à ses côtés, veillaient rigoureusement à ce qu'il n'y eût point de supercherie. S'il se trompait, il ne pouvait danser de la soirée avec sa fiancée, mais seulement avec celle qu'il avait choisie par erreur. Germain, se voyant en présence de ces fantômes enveloppés sous le même suaire, craignait fort de se tromper. Et de fait, cela était arrivé à bien d'autres, car les précautions étaient toujours prises avec un soin consciencieux. Le cœur lui battait. La petite Marie essayait bien de respirer fort et d'agiter un peu le drap, mais ses malines rivales en faisaient autant, poussaient le drap avec leurs doigts, et il y avait autant de signes mystérieux que de jeunes filles sous le voile. Les cornettes carrées maintenaient ce voile si également qu'il était impossible de voir la forme d'un front dessiné par ses plis. Germain, après 10 minutes d'hésitation, ferma les yeux, recommanda son âme à Dieu et tendit la baguette au hasard. Il toucha le front de la petite Marie, qui jeta le drap loin d'elle en criant « Victoire !». Il eut alors la permission de l'embrasser et, l'enlevant dans ses bras robustes, il la porta au milieu de la chambre et ouvrit avec elle le bal qui dura jusqu'à 2 heures du matin. Et puis, à l'heure d'aller chercher la bénédiction nuptiale, chacun prit en groupe une compagne. Germain partit sur sa fidèle jument grise, ornée de rubans, amenant sa chère petite femme d'un air de triomphe. La joyeuse cavalcade se mit en route, escortée par les enfants à pied, qui couraient en tirant des coups de pistolet et faisaient bondir les chevaux. La mère Maurice était montée sur une petite charrette avec ses 3 petits-enfants. Ils ouvraient la marche au son des instruments. Petit Pierre était si beau que la grand-mère en était toute orgueilleuse. Mais l'impétueux enfant ne tint pas longtemps à ses côtés. À un temps d'arrêt qu'il fallut faire à mi-chemin pour s'engager dans un passage difficile, il s'esquiva et alla supplier son père de l'asseoir devant lui sur la jument grise. « Cela va nous attirer une mauvaise plaisanterie, il ne faut point, » lui répondit Germain. « Je ne me soucie guère de ce que diront les gens, » dit la petite Marie. « Prenez-le, Germain, je vous en prie. Je serai encore plus fier de lui que de ma toilette de noces. » Germain céda, et le beau trio s'élança dans les rangs au galop triomphant de sa jument grise.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Éric Boisset à la technique. Elle a été préparée par Fanny Leroy, Estelle Gap et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.